Même audio? Une mémoire sonore?
Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de notre soirée. Donc, la partie qui est plus interactive, d'échange avec la salle. Peut-être, je vous propose une méthode, c'est qu'on prenne deux ou trois questions et qu'ensuite, il y ait un retour depuis la tribune. Et je vous propose au moins qu'on démarre par des questions qui sont plutôt des questions d'éclaircissement, de manière à ce que si on a un débat, il puisse se dérouler avec les choses un petit peu au clair. Est-ce que par rapport aux interventions qui ont été proposées ici, il y a des demandes de précision, de questions particulières? On voit qu'on est dans la matière juridique, donc des fois c'est un peu complexe. Il ne faut pas hésiter à se faire clarifier des choses. Voilà. On va prendre les trois premières questions.
Bonsoir. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce tour d'horizon tout à fait nécessaire qui nous remet bien les points de départ, le principe, voilà, en tête, parce que c'est très important pour réfléchir à la question. Effectivement, avoir un avis sur le foulard ou tout autre signe, une croix ou Dieu sait quoi. Je suis athée, et je dis Dieu sait quoi parce que je suis occitane. Ça fait partie de notre vocabulaire. Mais c'était tout à fait essentiel. En vous écoutant, surtout dans la dernière partie de votre intervention, je me demandais, parce que l'image m'est apparue, comment se passait dans les écoles l'arrivée d'enfants. J'ai vu, très rarement, mais j'ai vu des petites filles en dessous de 10 ans porter un foulard. J'avoue que ça m'a serré le cœur. Bon, mais ça, c'est une réaction tout à fait personnelle pour ma vision de la liberté des femmes. Et je me suis demandé, avec ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il y a eu des réactions hostiles lorsque ces enfants étaient amenés à l'école ?
Oui, moi j'avais une question par rapport au rôle du Conseil d'État, parce que vous l'avez mentionné quelques fois, et quand vous l'avez mentionné, vous avez expliqué que il était souvent là, il rappelait souvent le rôle de la loi comme une loi de liberté, mais pourtant ça n'a pas empêché les politiques d'aller à l'encontre de leur avis. Donc est-ce que le Conseil d'État ne peut pas empêcher justement cette dérive de passer de liberté à neutralité? Quel est le rôle du Conseil d'État du coup dans tout ça?
Bonjour, je me posais une question concernant la loi 1905. Le fait que l'État finance des écoles à caractère religieux, ça me paraît un peu contradictoire, ou je n'ai pas tout bien compris. Et le statut de l'Alsace et la Lorraine, où il n'y a pas cette séparation. Merci.
Sur l'école, peut-être. Alors, à l'école publique, il était bien évident qu'aujourd'hui, depuis 2004, il est interdit de porter un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, dont le port du foulard est bien évidemment. Peut-être que ce à quoi vous faites allusion, c'est les écoles qui ne sont pas publiques, puisque justement, vous venez de faire le lien avec cela. Le principe, donc, qui n'est pas un principe de neutralité, hein, c'est un principe qui implique, qui concerne simplement les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, qui signifie que ma petite vierge que j'ai sous le cou, elle, je pourrais évidemment être élève dans l'éducation, enfin dans l'enseignement public et la conserver. À côté de cela, il y a l'enseignement public, il y a l'enseignement privé, qui en effet peut, à la faveur de ce qu'on appelle un contrat d'association, être financé en partie, enfin c'est très complexe, mais il y a certains financements qui peuvent être accordés des financements publics, mais pas sur l'intégralité pas sur le fonctionnement déjà, qui doit être financé, autofinancé par les écoles, et ces contrats d'association le respect déjà du principe de laïcité, pas pour les usagers qui qu'ont la liberté de s'habiller comme ils le veulent, puisqu'il y a souvent de l'éducation religieuse qui est aussi faite dans ces écoles, mais les contrats d'association impliquent que l'établissement privé soit garant de principes, enfin, respecte des principes essentiels, et notamment la question de la laïcité, dans le sens où il ne doit pas y avoir d'enseignement qui reviendrait à méconnaître les principes de la laïcité. C'est en tout cas une obligation de respecter le principe de laïcité dans les enseignements et dans le contenu pédagogique qui s'impose à ces établissements. Donc c'est vrai qu'on est... Nous, à la Ligue, il y a eu plus, j'ai l'impression, de débats sur la question du financement de l'enseignement privé que sur la question de 2004, hein, précisément. Mais en tout cas, ce qu'on constate, alors pour revenir à votre question, c'est quand même extrêmement réglementé. Le fonctionnement de ces établissements n'est pas financé par des deniers publics et ces établissements sont tenus au respect de nombreuses règles, parmi lesquelles, je vous le disais, de ne pas avoir un enseignement qui impliquerait de faire passer le religieux sur certaines règles. Et les établissements musulmans sont extrêmement contrôlés. Souvent, parfois, on fait l'objet de décisions de fermeture, ou en tout cas de suspension du contrat d'association, qui, à ma connaissance, ont quasiment été toutes remises en cause par la justice. Et puis, à côté de ça, on a une année 2025 qui a quand même aussi fait naître au grand jour des grandes difficultés sur des établissements privés qui, pour le coup, eux, n'avaient jamais fait l'objet de contrôle, là où pour l'établissement Averroès, je crois qu'on a eu plus de 20 contrôles en une année. C'est pour dire qu'il y a quand même une différence de traitement assez étonnante entre les établissements privés catholiques et les autres. Mais bon, c'est un constat que je dresse, soit dit en passant. Vous avez raison de relever que sur la question du concordat, j'ai parlé beaucoup de la loi de 1905, du principe de neutralité. Il y a quand même une grosse exception qui est l'Alsace-Moselle, pour laquelle il n'y a pas. La République salarie le culte en Alsace-Moselle, et il y a en effet un principe de neutralité qui ne s'applique pas du tout dans la même mesure, mais le Conseil constitutionnel a dit en 2013 que le constituant en 1958, c'est-à-dire l'auteur de la Constitution de 1958, n'a pas entendu remettre en cause le concordat, donc la question a été posée au Conseil constitutionnel. Moi, en tant que juriste, j'ai jamais été conquise par l'argumentation que j'ai toujours trouvée très succincte, mais le Conseil constitutionnel nous a dit que le constituant n'avait pas entendu remettre en cause cette singularité de l'Alsace-Moselle qui donc s'accorde avec le principe de laïcité de manière assez curieuse. Et sur l'hostilité que ça peut générer, les réactions, je pense que c'est normal, en fait. On a tous... déjà on est humain et on a le droit d'être indigné, on a le droit d'avoir des réactions. L'idée, c'est de pas dire qu'on doit s'interdire d'avoir des réactions, l'idée, c'est de comprendre comment les règles fonctionnent. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est de ces enfants qui, dans l'enseignement du coup privé, portent le foulard à un âge très précoce, trop précoce. C'est probablement un questionnement qu'on doit avoir. Est-ce que pour autant ça doit nous amener à avoir le questionnement qu'on connaît actuellement sur le point de savoir s'il faut interdire le port du foulard aux mineurs ou aux femmes de jeunes filles, adolescentes de moins de 15 ans ou de 16 ans, puisque c'est aujourd'hui une mesure qui apparaît dans de nombreux programmes politiques à droite et au centre. C'est aussi, voilà, je pense qu'il y a un juste milieu peut-être à avoir. Sur la question du Conseil d'État, le Conseil d'État dit ce qu'il y a dans la loi, le Conseil d'État ne fait pas la loi. C'est-à-dire lorsque les hijabeuses dont j'ai parlé ont saisi le Conseil d'État en novembre 2021, eh bien, il est intéressant de voir que dès que cette saisine a été officialisée, eh bien, il y a eu 3 propositions de loi qui ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale pour interdire le port du foulard dans le sport, qui indiquaient toutes que le Conseil d'État avait été saisi qu'en l'état de la législation, il était possible que le Conseil d'État considère que la FFF avait méconnu la liberté de conscience et donc qu'il fallait vite agir au niveau législatif pour couper l'herbe sous le pied du Conseil d'État. Ce que je veux dire par là, c'est que le Conseil d'État dit ce qu'il y a dans la loi, mais il est parfaitement possible au législateur, à celui qui fait la loi, de la modifier pour précisément que le Conseil d'État ne puisse plus, d'une certaine manière, avoir les positions qu'il aurait s'il n'y avait pas de loi en ce sens. Bon, alors, sur l'affaire des hijabeuses, le Conseil d'État a été très conciliant avec la Fédération française de football. Je dois vous dire que cette décision, dans le monde du droit public dans lequel j'évolue, cette décision est considérée comme l'une des pires rendues par le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État a dit, a distingué d'une manière, moi je trouve assez juste, il a distingué les personnes, les athlètes qui concouraient en équipe de France, en indiquant que dans la mesure où elles avaient des liens très étroits avec les fédérations, elles étaient soumises à un principe de neutralité, parce que les fédérations de sport organisent des compétitions sportives. L'organisation des compétitions sportives est considérée comme une mission de service public. Et donc les fédérations, leurs bénévoles, leurs salariés sont soumis au principe de neutralité. La question, c'était celle des athlètes qui participent aux compétitions. Le Conseil d'État dit qu'on doit distinguer ceux qui sont en équipe de France, qui portent la bannière tricolore et qui doivent, eux, être soumis au principe de neutralité. Très bien. Et le Conseil d'État dit ensuite pour les autres. Pour ceux qui ne sont pas en équipe de France, ils ont la liberté, à partir du moment où ça ne méconnaît pas les règles du jeu et la capacité à, en tout cas, qu'on est sur un hijab qui est adapté à la pratique du sport. Il est bien évident qu'on ne peut pas permettre à un sportif d'avoir un foulard qui mènerait à des risques d'étranglement ou de je ne sais quoi. Ça paraît bien évident. Mais le Conseil d'État rajoute quelque chose. Il dit que dans le cas de la Fédération française de football, le risque de heurts et de confrontation qui est inhérent aux compétitions a pu permettre à la Fédération française de football de limiter les expressions, en particulier les expressions religieuses, et donc le Conseil d'État admet dans cette décision de juin 2023 que la Fédération française de football ait pu interdire le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Et pourquoi je trouve ça préoccupant, c'est qu'en fait, il me semble que le Conseil d'État a ouvert une brèche, qui est de dire qu'à partir du moment où il y a un risque de heurts et de confrontation, eh bien, on pourrait réglementer la liberté religieuse. Je crois qu'aujourd'hui, la société est à ce point polarisé que le risque de heurts et de confrontation, il n'existe pas forcément que sur les terrains de football, il existe aussi au-delà. Et puis, ça me gêne beaucoup, moi, d'avoir un risque de heurts qui est en fait un des risques de confrontation liés à l'intolérance. Hein, si c'est l'intolérance qui viendrait créer le heurt. Eh bien, finalement, on interdit toute forme de liberté qui pourrait susciter des heurts au motif qu'on a l'intolérance qui pourrait être à l'origine de ces heurts. Je crois que cette décision du Conseil d'État traduit beaucoup de choses sur ce qui se passe dans notre société. Et donc, pour cette raison, le Conseil d'État a considéré qu'il fallait mieux prévenir les troubles en interdisant en amont, ce qui est à l'inverse du droit applicable, qui est que normalement, la liberté, c'est la règle. La restriction, c'est l'exception, et qu'on ne peut restreindre des libertés que lorsqu'il est avéré que ces libertés, elles, posent des problèmes pour l'ordre public. Mais dans le cas des hijabeuses, eh bien, il n'y avait aucun élément qui montrait que le port du foulard sur les terrains avait pu avoir un impact quelconque sur le bon déroulement des compétitions. Puis aujourd'hui, on a un peu plus... La Fédération française de basket a rejoint la Fédération française de football, d'autres fédérations également. Et aujourd'hui, on voit que la réalité est que dans certains quartiers, notamment dans les milieux les plus populaires, eh bien, il y a beaucoup moins de jeunes femmes, de jeunes adolescentes qui font du sport, précisément parce qu'aujourd'hui, elles auraient l'obligation de retirer leur foulard.
Merci Marion. on peut partir pour une autre salve de questions. Alors, des demandes de précision, voire du débat. Hein. Ou alors, tout a été extrêmement limpide et nous sommes d'un unanimisme. Odile.
Une question. Est-ce que, en parallèle de toute cette évolution historique, est-ce qu'il y a eu des études qui ont permis de mesurer l'utilisation du voile dit islamique par les populations dites musulmanes, enfin supposées musulmanes, et est-ce qu'il y a une corrélation entre une augmentation de cette utilisation et la répression que subissent les familles par rapport au port du voile? Parce que j'ai un peu le sentiment que le voile est devenu de plus en plus important au fur et à mesure où on a légiféré dessus.
Bonjour. Alors moi, j'étais enseignante. Et donc, plus d'une fois, je me suis dit que je suis contente de ne plus l'être, vu ce que j'entends de mes collègues. Alors, il y a une expression qui m'interroge. Vous avez parlé de respecter le principe de laïcité dans l'enseignement pour les établissements scolaires privés. Mais l'enseignement, il n'est pas laïque ou pas laïque. Il y a un programme, il y a des choses à enseigner. Donc, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là. Et ensuite, vous avez dit que l'école n'est pas un sanctuaire. Donc, ça peut être que... on peut y exercer librement les signes de religion. Les professeurs d'histoire et géographie, d'art et compagnie, ou de sport, je ne sais pas trop ce qu'ils en penseraient, parce que, bon, après, quand c'est des gamins, est-ce que c'est eux qui expriment leur liberté religieuse? Moi, j'en doute, quand ils sont petits. Et ensuite, est-ce que, parce qu'on est musulman, par exemple, ou... est-ce qu'on peut ne pas assister à certains cours ou, voyez, ça me pose tout un tas de questions sur l'enseignement.
Merci. Moi, je reviens sur la question de la neutralité de l'État à travers ses agents, les agents du service public. Quelle loi fait que les agents du service public doivent ne pas avoir de signes ostentatoires? Parce que si on voit, par exemple, la police britannique, ils peuvent porter le voile, Donc, en France, comment ce lien se fait entre l'État et ses agents? Merci.
Alors, sur la question de l'éducation, où c'est... enfin, il faut être... je peux avoir des maladresses, et c'est pour ça que je tiens à les rectifier. Sur la question du sanctuaire, moi, c'est mes termes de dire que l'école est un sanctuaire. Je le disais, et on m'a dit récemment, c'est pour ça que je le notais, qu'il ne fallait pas parler de cette manière, parce que ça impliquait qu'on est plus la personne qu'on est lorsqu'on rentre dans l'école. Et bref, c'est une réflexion, c'est un débat. Est-ce que l'école est un sanctuaire? Est-ce qu'il faut considérer qu'il y a des limites imperméables, etc.? C'était un développement plutôt en termes de réflexion que d'affirmation, parce que enfin, là-dessus, je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'à l'école, plus qu'ailleurs peut-être, chaque enfant... doit être traité de la même manière et doit être mise à même de s'émanciper pleinement, indépendamment des préjugés, de tout ce qui pourrait faire échec ou en tout cas entraver son émancipation. Là-dessus, qu'on soit bien clair. Quand je parlais du respect de principe de laïcité par les établissements privés, j'en reviens à l'enseignement qui doit respecter le programme qui s'impose aux établissements, et que à ce titre, et ça a été d'ailleurs des éléments qui ont été reprochés à certains collèges privés ou publics, je peux vous donner des exemples d'établissements privés dans lesquels il était interdit par le cours, dans le cours d'anglais de traiter les pages d'un manuel d'anglais qui parlait des familles recomposées et donc des transformations sociétales. Le proviseur avait demandé à ce que ces pages ne soient pas traitées, alors même que c'était le manuel conforme à l'enseignement, enfin à l'enseignement qui était dispensé au programme. De manière générale, il y a dans les lycées musulmans qui ont été pour lesquels le contrat d'association a été suspendu, voire résilié, il y avait ces questions sur comment comment la conviction religieuse imprègne la dispense de l'enseignement et comment l'enseignement, le programme scolaire est remis en cause, soit par des élèves, soit par des professeurs eux-mêmes dans le cadre de l'enseignement privé, au nom des convictions religieuses, ce qui est absolument condamnable. C'est-à-dire que qu'on soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé, il y a une chose qui est certaine, c'est que prime le programme scolaire et que jamais, que ce soit les étudiants, que ce soit leurs parents ou que ce soit les professeurs eux-mêmes, ne doivent remettre en cause le programme au nom de préceptes religieux. Et ça, c'est ça que je voulais dire en disant que l'enseignement privé était lui-même astreint au principe de laïcité, c'est-à-dire le principe suivant lequel on ne peut pas refuser les enseignements tels qu'ils sont tels qu'ils sont prévus par le programme, qui doit être respecté par les enseignements, par les établissements sous contrat, au nom de convictions religieuses, que ce soit celle des professeurs, que ce soit celle des élèves, que ce soit celle de leurs parents. C'est extrêmement clair. Donc, je veux, là-dessus, il n'y a pas de débat. Sur la neutralité des agents publics, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, c'est la loi. Alors, c'est à la base. L'origine, c'est le principe de neutralité de l'État, puisque les agents publics et les fonctionnaires sont la vitrine de l'État, mais plus précisément, la loi de 1983, qui est le statut général de la fonction publique, prévoit le principe de neutralité. Et à la différence de la formule les agents publics, eux, sont soumis à un strict principe de neutralité, ce qui implique que ce ne sont pas simplement les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse qui sont prohibés. C'est bien tout signe manifestant une appartenance religieuse qui est prohibé, s'agissant des agents publics et des agents publics, quels qu'ils soient. On a parfois, ça en vient à des situations. Dernièrement, on a un policier a été révoqué, ou en tout cas il ne pouvait pas être policier parce que l'administration avait jugé qu'il méconnaissait son devoir de neutralité parce qu'il avait une tabac sur le front, c'est-à-dire la marque de la prière lorsque on fait sa prière de manière je ne sais pas comment le dire, enfin de manière assez régulière et assez puissante, eh bien on peut avoir une assidue et voilà, on peut avoir une certaine marque sur le front. Et dernièrement, il y a eu ce débat sur le point de savoir si l'agent qui avait cette marque sur le front a raison d'une pratique religieuse, pas évidemment dans les locaux de police, mais bien en dehors, devait être regardé comme ayant méconnu son principe de neutralité. On en vient à avoir ces débats. Alors, pour information, le tribunal administratif avait considéré que, oui, on ne pouvait pas considérer qu'il était neutre, et puis la cour administrative d'appel a remis les choses en ordre en disant, en fait, la question est celle de savoir si, dans le cadre du service, il méconnaît son principe de neutralité, et ce n'était évidemment pas le cas. Donc, on en vient aujourd'hui à avoir ce type de débat, mais c'est dans les statuts des fonctionnaires, aujourd'hui dans le Code général de la fonction publique, et là-dessus c'est extrêmement clair. En effet, madame, vous le disiez, il y a une résurgence. Ça, c'est extrêmement documenté. Là-dessus, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une réaffirmation de l'identité religieuse, plus de femmes qui portaient le foulard. Et est-ce qu'il y a... Alors, il y a tout, hein, si on commence à lire les différents sociologues, il y a de tout sur cette question. Mais en tout cas, là-dessus, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a une réaffirmation du religieux. Beaucoup disent que c'est en réaction aussi. En fait, je crois que tout le monde est clair sur le fait que les raisons qui justifient qu'une femme musulmane porte le foulard sont variables, nombreuses, qu'elles sont loin d'être identiques, qu'elles répondent à des cheminements de vie différents, qui sont liés à plein de choses différentes et qu'on ne peut pas dire que ces femmes musulmanes qui portent le foulard pour une seule et unique raison. J'ai déjà entendu à plusieurs reprises qu'il y avait une envie aussi de réagir. J'ai même dernièrement entendu une ligueuse me dire qu'elle n'était pas du tout musulmane, mais que par solidarité avec les femmes musulmanes qui étaient agressées chaque jour, aujourd'hui elle avait juste envie de mettre un foulard sur la tête par solidarité. Alors maintenant, si on commence à parler des motivations des non-musulmanes qui portent un foulard, ça peut aller très loin, mais voilà.
Je ne pourrais pas m'empêcher de réagir. Je vais le faire. Non, mais on va prendre des questions d'abord.
Bonjour, merci pour les interventions. Moi, j'avais une question, c'est que, en fait, en ce moment, je pense que dans le débat public, on a du mal à percevoir des éléments de réalité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'islam politique, qui est apparemment, il y a beaucoup de voix pour dire qu'il y a une augmentation de l'islam politique depuis des années. Et bon, je me posais la question, est-ce que voilà. Et du coup, je me dis aussi, moi personnellement, je vois aussi qu'on a aussi des signes de radicalisation aussi de, on pourrait dire, du catholicisme politique. C'est-à-dire qu'on le voit avec des relais politiques. Et du coup, ma question, c'est est-ce que la Ligue des droits de l'homme va créer un observatoire ou des groupes de travail pour observer quelle est la réalité? Est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de tendance de cet islam politique préjugé ou, voilà, et de voir est-ce qu'il y a des signes d'impact ou des signes d'évolution voilà. Et après, de voir ça aussi au travers de plusieurs religions, parce qu'après, on voit aussi qu'il y a des influences politiques, religieuses, qui sont d'autres religions aussi, quoi. Donc voilà.
Bon, bonjour, merci. Je vais compléter, puisque j'avais une question dans le même sens, de réalité. Il me semble un jour avoir entendu que le pourcentage de femmes qui étaient concernées était très faible, mais que c'était simplement la médiatisation qui augmentait, voilà, et avec sous l'influence de toute la peur qu'on veut faire parcourir partout vis-à-vis du terrorisme. Donc j'aimerais bien savoir où est la source sur laquelle je peux trouver le pourcentage précis et qui était aussi en lien aussi avec les migrants. On parle beaucoup en ce moment de migrants. J'ai pas réussi à trouver les pourcentages parce que j'ai vu dans un tract politique en disant il y a X% de la population sur telle commune qui est des migrants, voilà. Donc, et je n'ai pas trouvé la source. J'ai trouvé au niveau national, mais pas par région pour que je puisse dire non, ce chiffre est faux.
Oui, bonsoir. Alors moi, de manière peut-être un peu décalée, un petit peu, parce qu'après je vais y revenir. Moi, je voudrais revenir sur la notion d'école sanctuaire un peu. Et la question de la laïcité à l'école, qui est souvent accolée, c'est-à-dire en gros qu'il ne faudrait pas à l'école parler de religion, il ne faudrait pas parler de politique, il ne faudrait pas parler d'éducation affective et sexuelle, etc. Et c'est là que ça se revient, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par rapport à cette notion, alors pour moi évidemment, l'école n'est pas un sanctuaire dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un abus, c'est un dévoiement de cette notion de neutralité de l'école, que de penser que c'est un endroit où on ne peut pas aborder les questions sociales, voire les questions religieuses. Hein, c'est pas la même chose de dire que, voilà, à l'école, on a le droit de parler de tout ça, et au contraire, c'est même un devoir. Et aujourd'hui, on voit de manière un peu, comment dire, pas nouvelle d'ailleurs du tout, mais renouvelée, on va dire, sur la question de l'éducation affective et sexuelle, par exemple, des lobbying religieux, de toute tendance religieuse, hein, y compris les mêmes dont vous parliez qui veulent rappeler les racines judéo-chrétiennes de la France, se prononcer contre l'éducation affective et sexuelle. On a même eu un ministre qui n'est pas resté longtemps hein, dans la valse des ministres, hein, mais qui a dit on ne va pas faire rentrer les militants woke dans l'éducation nationale, voilà, par rapport à ça. Donc je voulais faire un peu le lien, parce que je trouve que des fois, c'est le même dévoiement, on va dire, de certaines notions fondamentales des principes républicains, dont le principe de laïcité par rapport à la religion, mais qui, que vous avez, je ne reviens pas sur tout ça, mais qui des fois est par extension rapporté sur l'espace public, comme si l'espace public devait être neutre en soi, et on voit qu'il y a des attaques par rapport à ça, sur le fait d'empêcher des matières éducatives aujourd'hui ou d'empêcher des débats dans l'espace public alors que ça n'a rien à voir hein, c'est la religion a bien sa place aussi dans l'espace public, cette neutralité de l'État ou c'est pas une stérilisation totale de l'espace public au niveau ni des affirmations quelles qu'elles soient. Voilà, donc je voulais un peu par extension on va dire avoir un peu votre regard par rapport à ça parce que par ailleurs, vous avez aussi glissé comme ça, tout doucement, que les religions étaient, d'une manière générale, portaient beaucoup une différenciation du rôle des hommes et des femmes, et que
pour beaucoup de religions aussi, il y a une conception hiérarchisée de la société qui ne va pas dans le sens de l'émancipation, et notamment dans le sens de l'émancipation des femmes. Il y a quand même là, je crois, comment dire, quelque chose d'important à montrer que la laïcité, parce qu'elle permet les débats et les débats sociétaux, la laïcité permet l'émancipation de toutes et de chacun. Voilà, je trouve que c'est important de faire un peu ce lien-là entre les conceptions quand même religieuses et au niveau de l'éducation, comment dire, ne pas permettre l'auto-affirmation de chacun, et que, parce qu'elle est laïque, l'école doit le permettre. Et dans cette laïcité, ça doit être une laïcité ouverte, au sens non pas de nouvelle laïcité du tout, mais dans le fait que ça ne veut pas dire qu'on n'aborde pas toutes ces questions-là à l'école. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà, c'était pour pousser un peu.
Je voudrais vous dire merci. Merci pour ces propos qui résonnent sur quelque chose qu'on constate actuellement de manière de plus en plus importante, avec, qui est que, à partir du principe de neutralité lié à la laïcité, aujourd'hui, l'hypertrophie de cette neutralité n'est pas seulement sur des questions religieuses, mais sur l'ensemble de la société. Il y a très récemment, la semaine dernière, un rapport de l'Observatoire des libertés associatives sur les injonctions à la neutralité. Aujourd'hui, il y a plusieurs, de plus en plus, et je crois même que c'est peut-être un peu le cas ici, des règlements de salles municipales qui permettent aux associations de faire leurs réunions à condition qu'elles ne fassent pas de politique dans ces mêmes salles. Ce qui, voilà, ici, mais ailleurs. Est-ce qu'on fait de la politique ?
On fait du sociétal.
On fait du sociétal. Non, en réalité, ce n'est pas qu'ici. À Arles, par exemple, la Ligue des droits de l'homme n'est plus la bienvenue dans la maison des associations de la ville d'Arles parce qu'elle avait décidé de faire un ciné-débat, c'est-à-dire une réflexion collective sur la question de Béziers l'envers du décor. La Ligue des droits de l'homme a été évincée de la maison des associations. Il y a en effet une injonction à la neutralité, mais pour revenir sur le cas de l'école, je vous invite à regarder de près ce qui a été médiatisé il y a 3 semaines, à savoir une école dans l'Allier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette décision de l'inspection académique qui s'est opposée à ce que le 28 mars prochain, des élèves d'une école en primaire chantent une chanson de Lavillier, Les Mains d'Or, en raison, donc, un chant qui s'inscrivait dans le cadre du licenciement de nombreux salariés des environs, des parents d'élèves, qui étaient concernés par ce licenciement, et il a été considéré, donc l'inspection du travail a parlé de laïcité, pour considérer que le chant de ces enfants ne devait pas avoir lieu au nom du principe de laïcité. Alors, on a une illustration topique de la confusion entre la laïcité et la neutralité religieuse et la neutralité politique, ce que vous soulignez. Et ces exemples, j'en ai plein, mais c'est vraiment prégnant, et c'est là où ça rejoint peut-être la question du sanctuaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit considérer que des enfants, au nom de la neutralité qui doit s'imposer à l'école, ne peuvent plus aujourd'hui chanter on parle de Lavillier, c'est-à-dire avoir une ouverture sur la société. À quel point est-ce qu'on est dans un sanctuaire, en fait ? Et je pense que la réflexion était celle-ci. Et c'est aussi ça dont je parlais tout à l'heure. L'idée n'est pas de dire qu'il faut inviter le religieux à l'école. Évidemment que ce n'est pas du tout le sens de mon propos, et chacun a sa réflexion là-dessus. En tout cas, ma réflexion là-dessus est extrêmement claire. Voilà, est-ce qu'on doit faire de l'école un sanctuaire se priver de toute vision, expression sociétale, stérilisée, c'est très bien. Eh bien, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur cette question, mais le précédent de l'Allier est extrêmement explicite sur ce à quoi cela aboutit. Sur la question de la Ligue des droits de l'homme, vous le savez sans doute qu'il y a un groupe de travail laïcité au sein de la Ligue des droits de l'homme, dont nous deux faisons partie, qui pour le moment n'a pas évoqué l'idée d'un tel observatoire comme vous le suggériez et qui, je ne suis pas sûre, en aurait en tout état de cause les moyens, mais je n'ai pas de connaissance d'un tel observatoire. Et pour la question relative aux chiffres, ils sont très difficiles à obtenir. Il y a un article du Figaro qui remet bien, enfin qui source les chiffres, qui fait état justement du fait qu'une femme sur trois indiquerait porter le foulard. On a très peu de chiffres et c'est logique puisque on ne peut pas évidemment faire de statistiques ethniques sur ces questions ni religieuses. Donc c'est d'où la difficulté d'avoir des chiffres. Vous disiez, vous soulignez que certains médias font comme si c'était quelque chose de beaucoup plus important. En réalité, ce que je constate, c'est que ces médias, à chaque fois, survalorisent dans le sens, utilisent ces questions à chaque fois pour les connoter politiquement et les associer à une forme de menace. Donc, je crois qu'en fait, le nombre de femmes concernées par ces répressions qu'on a évoquées, le nombre est important. La question de la menace, pour le coup, doit être, à mon avis, largement relativisée.
Même audio. Une mémoire sonore.
Oui, juste peut-être une précision concernant les observatoires. Je pense que les questions que vous posez renvoient des observatoires de sociologues ou de politologues. La Ligue des droits de l'homme ne crée... Alors, on est un peu spécialiste ici à Toulouse, mais ne crée des observatoires que quand il identifie des questions qui sont des questions qui sont liées à des atteintes aux droits des personnes ou des institutions. Il existe par ailleurs des observatoires du religieux dans des universités ou des choses comme ça qui peuvent permettre d'avoir des réponses à ces questions-là. Mais on n'a pas vocation, en tant que Ligue des droits de l'homme, à avoir un observatoire dans l'absolu sur cette question-là de manière large. On est plus sur des questions qui renvoient vraiment à des enjeux liés à la question qui est la question du respect des droits des personnes ou des associations, par exemple. Voilà. Et juste sur le fond, ce que je voudrais, sur cette histoire quand même du sanctuaire, voilà. Juste réagir. Moi, j'ai connu l'affaire de Creil, j'ai vu les choses, comment elles se sont petit à petit développées, la loi de 2004, etc. etc. Je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que cette question de la difficulté à traiter de la question du religieux à l'école, hein, au point de fabriquer des entorses qui sont des entorses à la loi de 1905. La loi de 2004 est une entorse à la loi de 1905 au sens où elle ne respecte pas la liberté de conscience et de pratique des cultes des usagers d'un service public qui s'appelle l'école. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va de pair avec l'étranglement progressif des modèles d'école ouverte dans lequel il y a des espaces dans lesquels, avec les enfants ou les adolescents, on peut débattre de ces questions-là. L'école devenue un agglomérat de salles de cours dans lequel on fait le programme est incapable de traiter de la question des faits qui sont des faits de société. Enfin, les mouvements pédagogiques alertent depuis longtemps sur cette affaire-là. D'autant que un sanctuaire, cet espace qui serait en dehors de la vraie vie, comme si l'école pouvait être en dehors de la vraie vie, si on pouvait laisser toutes les choses à l'entrée, sur le porte-manteau quand on rentre dans l'école. C'est au service de quoi ? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas derrière une idée dans laquelle ce qui se dirait à l'école, ce serait un nouveau religieux, un nouveau fait religieux qui devrait s'imposer aux autres, autrement dit, on arrase tout ça à l'entrée. On a connu ça depuis des années à l'école. Il est interdit de parler patois, il est interdit d'amener sa religion, il est interdit d'amener sa culture, parce que l'école est un espace quoi, d'arrasement, de stérilisation. Est-ce que l'école, ce n'est pas justement un lieu... Et la laïcité va certainement avec cette conception de l'école, qui est que dans cet espace, qui est un espace déterminé, on va pouvoir à l'intérieur débattre. Si effectivement on commence à neutraliser à peu près tout à l'entrée, le débat va être vite réglé, quoi, j'ai envie de dire. Et encore une fois, 2004, quelques mois avant 2004, alors, corrélation n'est pas causalité, comme ils disent les intellectuels, mais avant 2004, la loi de 2004 sur l'école, on avait des mouvements liés à la question qui était la question de la maltraitance du service public d'éducation. Et je me demande à des moments donnés même si, y compris, on n'a pas donné à voir ou à traiter de cette question de l'interdiction des signes religieux à l'école comme moyen, effectivement, de se garantir la paix sociale concernant les établissements scolaires. Voilà, je dis ça comme ça. Autrement dit, il y a quand même là aussi quelque chose hors de la manipulation de la laïcité. Voilà. On prend les dernières questions parce qu'on s'achemine tout doucement vers les dernières minutes de notre réunion, sachant que il faudra donner quelques informations concernant la procédure sur la ville de Toulouse et le voilà.
Bonsoir, merci. Moi, c'est une remarque plus qu'une question, mais finalement, la France est l'un des seuls pays qui a légiféré fortement sur les religions. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, et moi je me faisais la réflexion au fur et à mesure. J'ai vu un fait divers moi sur le sport où il y a un gardien de foot là il y a quelques jours, parce qu'on est en pleine période du Ramadan, qui a quand même fait semblant d'être blessé pour que ses collègues puissent aller boire. On est quand même revenu à une polémique sur un fait, quoi, parce que des joueurs de foot sont allés boire. Je me demande vraiment à quel point on va dans le mur avec ce genre de choses. Quoi. Alors bon, effectivement, peut-être qu'ils sont allés manger deux dates en plus, quoi. Enfin, ça se ferait à n'importe quelle autre période autre que le Ramadan, mais tout le monde s'en ficherait, quoi. Et j'espère que en fait on s'en fiche tous. Mais bon. Je reviens sur les arrêtés anti-burkini, moi, parce que j'ai eu le malheur moi, de faire de la plongée sous-marine où on nous disait quand même que les femmes, il ne fallait pas qu'elles mettent un burkini pour mettre une combinaison de plongée par-dessus, quand même. Et moi, c'est ce qui me fait dire chaque fois qu'on en parle, et on en parle malheureusement souvent, que moi, je ne vois pas la difficulté avec ces burkinis, parce que je ne comprends toujours pas. Pourquoi est-ce qu'on autorise sur la plage quelqu'un qui est en combinaison de plongée et quelqu'une qui est en burkini, quoi ? Parce que j'ai quand même beaucoup de mal à voir quelle serait l'atteinte laïque d'une combinaison de plongée. Et donc, du coup, ma question, qui n'en est pas une très provocatrice, mais qu'est-ce qu'on a raté en faisant une loi et en légiférant sur ce domaine-là, alors que d'autres pays ne légifèrent pas, et on voit à quel point ça se passe quand même mieux, finalement.
Oui, moi, c'est pas une question, c'est plus, je vais me permettre de rebondir sur un commentaire tout à l'heure qui a été fait sur le port du voile et la libération des femmes, parce qu'effectivement, c'est une question où j'ai l'impression que le voile sert le cœur de beaucoup de féministes, parce qu'elles le voient comme un symbole d'oppression, et c'est très générationnel, j'ai l'impression, c'est plus la génération de ma mère et de ma grand-mère, pas tellement des féministes de ma génération. Et pour aborder ces questions-là, et pour un peu enlever la vision des femmes musulmanes qu'on doit sauver, parce que ça y est, en France, la mission civilisatrice, il faut passer à autre chose, je vous conseille l'ouvrage de Lila Aboulougod, qui s'intitule « Femmes musulmanes ont-elles besoin d'être sauvées ?» Voilà.
Bonsoir. C'est pas une question, mais je tenais à vous remercier d'avoir fait le parallèle en fait entre féminisme et cette question-là, parce que c'est vrai que il y a cette question-là de l'interdiction du voile ou assimilée à l'école, à la abaya, mais il y a pas cette, mais j'ai pas en tout cas moi, oui, entendu parler d'une interdiction potentielle du qamis, par exemple, qui est l'équivalent masculin de la abaya. Chaque année, on a ce débat-là et l'anti-débat, l'opposé aussi de la question de est-ce qu'une lycéenne peut porter un débardeur à l'école au risque de perturber ses camarades. Pour moi, toutes ces questions-là, c'est surtout un début de contrôle. Ces lois-là, si elles sont votées, il n'y a qu'un pas entre c'est une interprétation personnelle, mais à mes yeux, il n'y a qu'un pas entre ces lois-là qui sont votées et un contrôle digne de la servante écarlate. Il fut un temps, il y a 14 ans de cela, j'étais moi-même au lycée et je portais le voile parce que pour moi, c'était important culturellement. C'était plus culturel que religieux parce que j'étais en recherche. Et je rebondis sur ça parce que la période de l'adolescence, c'est une période qui est très marquante, c'est une période de recherche, de quête identitaire, c'est une période qui est très fragile. C'était déjà le cas à l'époque, il y a 14 ans, quand j'étais au lycée, on est surveillé sur ce qu'on porte, que ce soit la baïa, que ce soit un débardeur, que ce soit un short trop court, quand bien même on est en été, et à l'époque il y avait déjà des températures caniculaires au mois de juin, juillet, dans une France où on entend parler d'une lettre qui serait envoyée aux femmes de 29 ans et plus pour leur dire hop hop hop, il est temps de procréer, dans une France où on parle de réarmement démographique, pour moi c'est du contrôle du corps de la femme, de lui dire ce qu'elle doit porter. Ces jeunes filles qui sont des femmes en devenir, au lieu de pouvoir se concentrer sur leurs études, sur leurs cours, on leur dit voilà, tu dois t'habiller comme ça, tu ne dois pas t'habiller comme ça. C'est quelque chose qui est très traumatisant parce que de l'autre côté, pour le genre, parce que dans ce genre de débat-là, il ne faut même pas commencer à parler de non-binarité tutti quanti parce que. À l'époque là, je pense que ces personnes-là, si je leur dis on peut être musulman et queer, je pense que pour eux il y a quelque chose qui va pas passer dans leur tête. Mais ça c'est un autre débat. La période du lycée, c'est une période où j'ai pu me rechercher. C'est aussi pour revenir par rapport au voile quand on est enfant. J'ai été moi-même voilée très tôt, dès ma puberté. En fait, dès que j'ai eu mes règles, j'ai été voilée. C'est pas quelque chose qui m'a plu. Mais pour autant, me voiler au lycée, et aujourd'hui je ne le suis plus, c'est dire, me voiler au lycée, c'était une manière pour moi de me dire aussi, je me réapproprie cette culture-là. Pour moi, c'était vraiment pas plus que ça. Et le fait que des politiques qui représentent quand même des institutions au-dessus de nous parlent à notre place, aujourd'hui, dans ma position de femme maghrébine, quoi que je fasse, j'ai l'impression que ça ne sera jamais assez. Si je me voile, on va me faire chier. Si je ne me voile pas, on va me faire chier. Si je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, c'est-à-dire de manière traditionnelle gothique, ah ben là, je rentre plus dans les clous de la représentation de la femme maghrébine. Issue des quartiers populaires, issue d'une famille musulmane. C'est une question de contrôle et je vous remercie d'avoir mis en lumière cette réflexion-là sur le fait de vouloir contrôler le corps de la femme. Aujourd'hui, en 2026, on veut encore contrôler le corps de la femme. Et si d'autres lois sont votées en ce sens, ça sera l'ouverture. Je vais peut-être loin dans ma... c'est une digression, je vais peut-être loin dans ma pensée, mais pour moi, si on commence à autoriser ce genre de loi sur comment une femme doit s'habiller, on va revenir sur des lois aussi essentielles que celles au droit à l'avortement, par exemple. Surtout, je réitère, surtout dans une France, aujourd'hui en 2026, quand même c'est assez grave, où on parle de réarmement démographique, où on veut à nouveau contrôler l'utérus des femmes. J'ai qu'une seule chose à dire, laissez-nous nous habiller comme on veut, même au lycée, c'est une période, la pédopsychiatrie s'y penche assez pour dire que c'est une période de quête identitaire, c'est une période qui est très fragile, c'est une période qui est très marquante. Si une jeune fille a envie de mettre une abaya et que ça lui permet à elle de se sentir en phase avec son identité qui est potentiellement juste actuelle, hein, comme pour ma part où je me suis voilée au lycée et c'est parti. Ça n'a pas duré et peut-être que je me revoilerai un jour, qui sait. Mais le fait de pouvoir correspondre à ce que je pensais être mon identité et mon cheminement identitaire à l'époque, et qui était aussi une forme de rébellion parce qu'on attendait de moi, encore une fois, cette fille maghrébine issue des quartiers populaires, que je sois lissée dans cette société qui est laïque, où malheureusement on a tendance à interpréter la laïcité comme une absence de religion absolue et stérile, alors que la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion, c'est l'acceptation de toutes les religions ou de la non-religion. Ça m'a parlé en tant que ça, cette conférence, ce que vous avez dit, a parlé à l'adolescente de l'époque, et je tenais à vous en remercier.
Merci beaucoup. Alors, on me dit de conclure et je sais aussi que je dois reparler du local, et justement pour faire un trait d'union avec ce que vous venez de dire, le recours qui a été fait par la Ligue des droits de l'homme, ce n'est pas un recours qui attaque la réglementation des piscines municipales de Toulouse parce qu'il interdit le burkini. C'est un recours qui attaque le règlement parce qu'il interdit les maillots de bain couvrants. Parce que la Ligue des droits de l'homme considère dans ce recours que ce qui est en cause, ce n'est pas la question des droits des femmes musulmanes, c'est bien les droits des femmes tout court. C'est-à-dire que toutes les collectivités ont le devoir de réglementer l'accès aux piscines, heureusement, qu'à ce titre, il y a des exigences en termes d'hygiène et en termes de sécurité qui s'imposent, heureusement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas aller en jean dans la piscine municipale, et ça, c'est bien normal. Ce qu'il est indiqué dans le cadre de ce recours, c'est que les exigences d'hygiène et de sécurité ne justifient en rien l'interdiction des maillots de bain qui pourraient couvrir, en tout cas, plus le corps que ce qui est autorisé actuellement, à savoir un maillot de bain, on va dire, classique, mais qui ne peut pas aller au-delà des... Enfin, qui ne peut pas couvrir les cuisses. Ce n'est pas une question de droit des femmes musulmanes, c'est une question de droit des femmes. Alors, on m'a dernièrement dit, un ligueur m'a dit, non, mais les hommes, c'est pareil, moi, je n'ai pas forcément envie d'être en slip. Bon... On parle des femmes aujourd'hui et on a toutes nos raisons, on a nos vergetures, on a notre surpoids, on a, même sans avoir tout ça, des raisons de vouloir avoir un maillot de bain qui est couvrant et qui respectera les exigences de sécurité et d'hygiène. Et c'est précisément ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a d'autant plus un sujet à dire que les combinaisons sont acceptées là où les burkinis ne le seraient pas, parce que pour la petite information, il y a des documentations là-dessus. Une combinaison de plongée pose beaucoup plus de problèmes en termes de sécurité qu'un burkini, puisqu'un burkini est confectionné dans le même tissu qu'un maillot de bain lambda, là où une combinaison de plongée a un tissu qui est beaucoup plus épais, et ce qui fait qu'en cas de noyade, pour déchirer une combinaison de plongée, c'est beaucoup plus difficile à faire que de déchirer un burkini. Donc arrêtons avec la question du burkini qui porte atteinte à la sécurité, à l'hygiène, à l'ordre public de manière générale, parce que je vous invite à lire un arrêté qui interdit le burkini. Ils sont tous motivés au nom du terrorisme, au nom de la lutte contre le terrorisme, pardon, terrorisme intellectuel à force, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la laïcité, pour éviter les troubles à l'ordre public, pour éviter les bagarres sur les plages, pour l'hygiène, pour la sécurité, pour prévenir le risque de noyade. Il y a tout ça aujourd'hui dans chaque arrêté anti-burkini. Stop. Le recours qui a été formé consiste simplement à dire qu'il y a une restriction qui n'est pas justifiée par des considérations d'hygiène ou de sécurité, et qu'à ce titre, un maillot de bain couvrant qui respecte les exigences en termes d'hygiène et de sécurité doit pouvoir être admis. Ce recours n'est que celui-ci. Il ne parle pas il ne fait pas une dérogation pour les femmes musulmanes. Ce qui est intéressant, parce qu'on va vous parler de Grenoble. Dans l'affaire de Grenoble, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le même règlement qu'à Toulouse, mais il y avait une dérogation pour le burkini. Et donc là, ce qui a été retenu par le Conseil d'État, c'est que on ne peut pas faire une dérogation en raison des convictions religieuses de certains. Donc soit, l'idée c'est de dire, mais dans ce cas-là, on n'interdit rien, tout simplement. Et ça se fait dans plein de communes, ça se fait dans plein de pays, et il n'y a pas de difficulté à ce que des femmes aient un maillot de bain couvrant dès lors qu'ils respectent les exigences de sécurité et d'hygiène. Mais c'est tout à fait intéressant parce que à Grenoble, justement, à l'école, dans des classes de primaire, il avait été demandé aux enfants de dessiner ce qui leur manquait à l'école, de dessiner ce qu'ils voudraient à l'école. Et il a été remarqué que dans les quartiers les plus populaires, là où il y avait le plus de femmes musulmanes qui portaient le foulard, les enfants demandaient des piscines à l'école. Et on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que tu veux une piscine à l'école alors que tu peux aller à la piscine en dehors de l'école? Et les enfants ont répondu, bah non, parce que ma maman ne peut pas m'accompagner à la piscine, c'est pour ça que j'aimerais une piscine à l'école. Et voilà, gardons en tête le fait qu'on parle des femmes, pas que des femmes musulmanes, sur la question du corps, à la piscine, sur les plages. On parle aussi finalement des enfants. Et puis, gardons les yeux ouverts sur ce qui se passe, parce qu'à Mandelieu, la Napoule, hein, en 2025, la commune a innové. Elle a dit, ah, mais cette année, on n'a pas fait la même chose, on a réservé une plage. Donc, il y avait une plage de Mandelieu-la-Napoule qui était ouverte au burkini. Je ne connais pas Mandelieu-la-Napoule, et je n'ai pas très bien envie de connaître, d'ailleurs, à force de les attaquer, mais j'ai regardé sur Google Earth la plage. Bon, il y avait une plage, une belle plage, puis une plage avec des galets qui étaient sales. Je vous laisse deviner laquelle était ouverte aux personnes qui portent le burkini.
Bien, je vous propose que nous arrêtions là pour rendre les clés en temps et heure à la municipalité de Toulouse, en remerciant Marion, Caroline, d'avoir participé. Et bon, si vous voulez suivre nos actualités, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, et si vous voulez nous rejoindre dans les combats, dans nos combats, celui-là en est un, n'hésitez pas à venir nous voir à la table en bas ou alors à regarder sur le site de la LDH. Voilà. Bonne soirée et à une prochaine fois.
Même audio, une mémoire sonore.